de Saint Marguerite de Cortone, fêtée le 22 février 1247-1291. Sainte Marguerite de Cortone est née à Laviano, en Toscane, un tout petit village près du lac Trasimène. Ses parents étaient pauvres. Ils étaient de petits cultivateurs, mais ils étaient riches de foi, surtout sa maman. Malheureusement, la maman mourut très tôt. Marguerite n'avait que 7 ans et ce fut le début de sa perversion. Son papa se remaria à une autre dame et cette dame n'aimait pas Marguerite. Elle la détestait. Elle était une vraie marâtre. Ce n'est pas une excuse, mais ce fut plus difficile pour elle de se sanctifier. Elle devint insouciante, rieuse. Elle cherchait à l'extérieur de la maison des consolations qu'elle n'avait plus à la maison. Le démon en profita pour lui faire connaître un jeune homme qui s'éprit de sa beauté. Elle n'avait que 16 ans et il la demandait en mariage. Elle se laissa séduire et sans rien dire à son père, elle quitta la maison, elle avait 17 ans. Elle vivra 9 ans avec cet homme sans même se marier. Cet homme était très riche. Marguerite passait son temps dans des bals, des fêtes, des tournois, à changer de robe tous les jours, à se pavaner dans cette nouvelle ville de Cortone. Mais pourtant, elle n'était pas heureuse. Quand elle voyait des pauvres, elle se rappelait sa famille. Quand elle voyait une vieille dame, elle se rappelait sa maman qui, au du ciel, devait certainement ne pas être contente d'elle. Elle dira, « J'avais tout perdu, l'honneur, la dignité, la joie, la paix de l'âme. Alors j'allais de fête en fête pour m'étourdir. La seule chose que je n'avais pas perdue, c'est la foi. » Des gens de sa famille, scandalisés par cette vie, par ce concubinage qui est si fréquent aujourd'hui, ne se laissèrent pas aller au découragement, mais leur foi leur inspira de prier beaucoup et de faire prier beaucoup pour sa conversion. Dieu prit un moyen radical pour sa conversion. Son faux mari était parti à la chasse et ne reviendra pas de la chasse. Durant 3 jours, Marguerite, folle de peur, le cherchait partout, le faisait chercher, elle ne le trouva pas. 3 jours après, elle partait avec son petit chien dans la forêt pour le chercher encore. Et voilà qu'elle trouva son mari, étendu par terre, un poignard dans le cœur. Elle était vraiment désespérée. Tout son avenir était perdu, toutes ses richesses aussi, puisque son faux mari était mort. Et son âme, qu'allait-elle devenir? Est-ce que Dieu allait encore lui pardonner? Combien de temps lui restait-elle à vivre? Pourrait-elle se corriger? Le démon essaie de la faire se suicider. rentra chez elle, décidée à mettre fin à sa vie. Mais arrivée à la maison, elle fut mal reçue par son père et sa marâtre. Alors elle partit pleurer dans le jardin. Elle entendit deux voix dans sa conscience. Une qui lui disait « Vas-y, mets fin à ta vie, ou bien reprends une vie de péché. » Et une autre voix qui lui disait « Tu vois pas que t'as assez péché jusqu'à maintenant? Tu as assez offensé le bon Dieu? Tu vas pas encore faire d'autres péchés? Ni non plus te jeter en enfer par le suicide? Allez, reprends-toi. Dieu est miséricordieux, c'est le propre de Dieu. Répare par une nouvelle vie la mauvaise vie que tu as eue jusqu'à aujourd'hui. » C'était certainement son ange gardien qui lui inspirait ces choses-là. Elle partit pour Cortone, directement au couvent des Capucins, des Franciscains. Là, elle rencontra deux dames, deux pieuses dames, qui lui indiquèrent un bon père, le père Bevegnati. Elle fit une confession générale et elle trouva d'une part la paix intérieure et d'autre part la haine pour son corps et pour tous les dérèglements que son corps avait occasionnés. Elle voyait son faux mari en enfer, mort dans le péché. Elle priait en espérant qu'au dernier moment il avait demandé pardon, qu'il avait fait un acte de repentir parfait. Mais elle se rendait compte que c'était sa faute. Alors elle voulait réparer et elle voulait expier dans son corps les péchés de son corps. Alors elle se coupa les cheveux, hara, pour qu'elle n'ait plus d'orgueil. Elle se griffa le visage. Elle voulait même se le taillader avec un ciseau si son confesseur ne l'en avait pas empêché. Elle s'habillait avec une bure, comme les Capucins. Elle allait pieds nus dans des sandales. Et elle passait son temps à prier, à visiter les pauvres, à laver les malheureux qu'elle trouvait un peu partout dans cette ville. Mais comme elle avait péché en public, comme elle avait été le scandale public, elle voulut aussi réparer son péché publiquement, pour que le tort qu'elle avait occasionné aux autres, pour que les péchés qu'elle avait peut-être fait faire aux autres, qui s'étaient dit « elle le fait, pourquoi pas nous ?» Alors elle voulut réparer publiquement ses péchés. Un dimanche, quand la messe fut finie, elle prit la place du prêtre devant l'autel, et devant tout le monde, fit sa confession générale, une corde au cou, à genoux et avec bien des larmes. L'émotion gagna tout le public et le tort qu'elle avait fait fut largement réparé. Depuis ce jour, elle avait 29 ans, elle passa une vie de pénitence. D'abord la pénitence du travail. Elle travaillait presque jour et nuit, ne s'accordait que quelques heures de sommeil, 3 à 4 heures. Elle passait beaucoup de temps à assister les jeunes mamans. Elle s'occupait de leurs enfants, elle faisait tout le ménage et la cuisine, et s'occupait aussi des enfants malades. Elle le fit si bien que tout le monde dans toute la région et la contrée voulait avoir Marguerite pour marraine de ses enfants. Si bien qu'elle fut marraine de dizaines et de dizaines d'enfants. Oui, la miséricorde de Dieu est infinie. Dieu relève du fumier, les âmes des pauvres pécheurs qui se repentissent elle les fait monter bien haut. Et Marguerite se demandait toujours si vraiment elle avait expié tous ses péchés. Elle entra dans le trésor de Saint-François pour s'astreindre à une nouvelle pénitence. Elle aimait obéir, accepter les épreuves, faire les travaux les plus pénibles. Elle se flagellait tous les jours, elle ne mangeait presque pas. Elle couchait sur le sol. Elle ne sortait jamais de chez elle, sauf pour aller à la messe, pour visiter les malades et pour rendre service à ceux qui en avaient besoin. Jamais une seule curiosité. Jamais elle n'élevait les yeux. Ses yeux qui avaient tant péché, elle les gardait rivés au sol ou pour regarder le crucifix. C'est devant le crucifix de l'église de Cortone qu'elle priait un jour en disant « Seigneur Jésus, vous avez tant souffert pour moi. Est-ce que vous pouvez me pardonner et permettre que j'aie expié tous mes péchés ?» Une voix sortit du crucifix. « Que veux-tu de moi, pauvre pécheresse ?» Ce fut comme un coup de poignard au cœur. Pauvre pécheresse. Jésus n'avait encore pas pardonné ses péchés. Elle n'avait pas encore expié. Il lui fallait faire encore plus. Jésus répéta, « Que veux-tu de moi, pauvre pécheresse ?» Alors Marguerite répondit, « Mais Seigneur Jésus, vous savez bien que je vous aime. Je ne veux que vous. » Voilà la parole qu'attendait Jésus. Jésus nous éprouve pour voir si vraiment on l'aime. Voyant que Marguerite ne cherchait qu'à faire la volonté de Dieu, car c'est cela l'aimer, Jésus lui dit, je veux que l'exemple de ta conversion prêche la confiance à ceux qui désespèrent de leurs fautes. Je suis toujours prêt à ouvrir les bras à n'importe quel pécheur qui ne désespère pas s'il est sincère. Respecte et aime toutes les créatures, n'en méprise aucune, même le plus grand des pécheurs, en pensant que moi, je t'ai pardonné. Et pour preuve que Jésus lui pardonnait vraiment, que tous ses péchés étaient expiés par ses 3 ans de pénitence, ça faisait déjà 3 ans, Jésus lui recommanda la communion fréquente. Il fallait donc que, contrairement à l'habitude de son temps, elle reçoive souvent le bon Dieu. Jésus lui dit, la communion fréquente, mais si agréable que pour te l'avoir conseillé, les prêtres qui t'ont confessé me seront chéris et je les mets dans mon cœur. Et ensuite, Jésus l'appela non plus pauvre pécheresse, mais ma fille. Tout heureuse d'avoir été pardonnée par le bon Dieu, d'avoir été sauvée de l'enfer, Marguerite voulut ne pas perdre une minute du temps qui lui restait. Elle voulait compenser en bien le mal qu'elle avait fait. Alors elle acheta une petite maison et construit un petit hospice pour les plus pauvres et les plus délaissés de la ville. Quelques jeunes filles généreuses acceptèrent de l'aider pour faire la cuisine, le ménage, aller quêter. elle-même, Marguerite, ne se nourrissait que des restes des repas des malades. Elle soignait les malades les plus repoussants dans leurs plaies. Et elle faisait la cuisine, les repas les meilleurs, car elle savait que tout ce qu'on fait aux autres, c'est à Jésus qu'on le fait. La nuit, elle a passé au pied du crucifix, à prier, à se flageller, à s'offrir en victime pour convertir d'autres pécheurs comme elle-même avait été convertie par la prière et l'offrande d'autres âmes victimes. Quinze ans après sa conversion, un vendredi saint, en 1287, elle va revivre en elle-même toute la passion de Jésus. Toute la journée, elle fut en extase dans l'église et tous les habitants de Cortone vinrent assister à ce spectacle merveilleux. On voyait Marguerite comme subir la flagellation, le couronnement d'épines et les coups et les crachats, le portement de croix, la crucifixion. Elle-même voyait toute la scène de la passion de Jésus et en ressentait toutes les souffrances. Je complète en moi ce qui manque à la passion de Jésus pour son corps qui est l'Église et sauver d'autres âmes. Ô Jésus, que vous ont fait les hommes? Quel péché ont-ils donc fait pour que vous ayez été traité si cruellement par les hommes eux-mêmes? Cette configuration à Jésus victime permit qu'elle obtient le don des miracles. Marguerite de Cortone, de pécheresse qu'elle était, deviendra, comme le Padre Pio ou Saint Antoine, un grand thaumaturge, une grande faiseuse de miracles. On ne comptait plus les guérisons, les conversions, les possédés délivrés, et surtout les pauvres pécheurs qui vivaient dans le péché comme Marguerite qui se repentait. Elle mit même fin à la guerre civile qui ravageait la contrée de Florence entre la famille des Guelfes et des Gibelins. Jésus un jour lui apparut même en disant « Cortone méritait d'être rasé de la carte ». Mais en considération de tes prières, de tes pénitences et de tes vertus, par ta justice, je leur pardonne et je leur laisse le temps de faire pénitence. J'exaucerai, je bénirai même quiconque t'invoquera durant ta vie ou après ta mort. Marguerite reçut de Dieu la révélation que bientôt elle allait mourir. Elle dormait sur un lit de sarment de vigne. Elle ne pouvait pas s'empêcher de faire pénitence encore pour ses péchés et pour les pécheurs, trop heureuse d'avoir été pardonnée et d'avoir été sauvée. Elle reçut avec une grande ferveur l'extrême-onction et la communion en viatique. Elle disait à ceux qui venaient la visiter: le salut n'est pas difficile, il suffit d'aimer le bon Dieu, et vous l'aimerez si vous aimez sa volonté, si vous acceptez ce qu'il vous demande et les épreuves qu'il vous envoie. C'était donc le 21 février 1291, elle rendit son âme en Dieu en disant: Mon Dieu, je vous aime. Et après sa mort, les miracles se multiplièrent non seulement à Cortone, mais dans tout le nord de l'Italie. C'était la guerre. François Ier et Charles Quint se faisaient la guerre. Nous sommes bien longtemps après la mort de Marguerite, au XVIe siècle. 25 000 hommes arrivent à Cortone pour envahir la ville. Il n'y avait que quelques gardes à Cortone. Sans qu'on ait jamais su pourquoi, miraculeusement, les 25 000 hommes repartirent et la guerre se termina. Sainte Marguerite de Cortone, vous avez mal commencé votre vie, et il faut le reconnaître, nous aussi. Combien de temps perdu, de mal commis, de bien pas fait. S'il vous plaît, intercédez auprès de nous, auprès de Jésus, qui a promis de vous exaucer durant votre vie et après votre mort. Faites que nous ne perdions plus de temps pour nous convertir de nos péchés, pour aimer le bon Dieu qui est si bon, qui a déjà tant souffert, qui ne mérite pas qu'on l'offense encore. Faites que nous fassions du bien, que nous évitions le mal, que nous ne perdions pas le temps. Et faites aussi que par notre action, nos prières, nos vertus, beaucoup d'âmes se sauvent et beaucoup de pécheurs se convertissent. Ainsi soit-il. De Sainte Monique, fêtée le 4 mai. Sainte Monique est un grand encouragement pour tous ceux qui prient et qui n'ont pas encore leurs prières exaucées. Sainte Monique est née en 332 à Tagaste, en Afrique du Nord, dans ce pays qui à l'époque était un pays catholique. Elle avait des parents très chrétiens qui la surveillaient partout. Et ses parents faisaient surtout attention pour voir les camarades que Monique avait car ils étaient soucieux de sa pureté. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Fréquenter des gens qui sont purs ou resterez purs. Dès son enfance, Monique, grâce à l'exemple de ses parents, avait un très grand amour et une très grande compassion pour les pauvres et pour les malheureux. Elle aimait aussi la prière. Ce qui l'avait frappé, c'était de voir son papa à genoux. Ainsi, dès qu'elle pouvait, elle se cachait derrière un arbre ou derrière son lit pour prier longtemps et même pendant la nuit. Le démon n'abandonnait pas cette proie. Il essaya de la vaincre par la gourmandise. Et pas n'importe quelle gourmandise, la gourmandise du vin. Elle se cachait parfois à la cave et buvait les restes de vin qu'elle y trouvait. Parfois même, elle allait au tonneau et buvait quelques rasades. Oh, elle ne se saoulait pas, mais elle commençait à y prendre goût et n'a pu pouvoir s'en passer. Mais son ange gardien veillait sur elle. Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Ce mal, c'était une dispute qui eut entre un jour entre Monique et une des servantes. La sainte Monique ne s'était pas privée pour rabaisser sa servante en disant « C'est moi qui vous commande ici. Vous êtes la servante de la maison. Vous n'avez qu'à m'obéir. » Et la servante lui répondit du tac au tac « C'est ça, buveuse de vin pur, espèce de soulonne. Vous voulez que je dise à vos parents que vous allez boire du vin en cachette ?» Monique rougit, ne put pas répondre, mais la leçon porta et depuis ce jour, elle ne toucha plus à la boisson. Elle passait une grande partie de son temps à visiter les pauvres, à laver et nettoyer leur maison, à laver même leurs plaies et leurs pieds, et ce qui frappait les gens, c'était sa douceur et sa patience, car les pauvres n'étaient pas toujours agréables. Parfois, elle n'avait aucun merci. Parfois, elle avait même des reproches. « Ouais, tu viens chez les pauvres. Toi, t'es riche. T'as tout ce qu'il faut. Mais nous, ici, on est pauvres. » Elle faisait ce qu'elle pouvait pour les consoler. Et sa manière de donner et d'aider était d'une plus grande consolation encore que l'argent qu'elle pouvait donner. Tous les saints vont connaître l'épreuve. Jésus a porté la croix et on ne peut pas entrer au ciel sans porter une ou plusieurs croix. Car Jésus a dit, si vous voulez être mon disciple, renoncez-vous, prenez votre croix et suivez mon exemple. Une grande croix de sainte Monique fut son mari, Patrice. On ne sait pas trop pourquoi, elle se maria à ce païen très violent, brutal et débauché. On dit que l'amour est aveugle. Peut-être aussi que Patrice cacha son jeu jusqu'au jour du mariage. Enfin, depuis le premier jour du mariage, sainte Monique en souffrit beaucoup. Beaucoup de gens croient que le mariage est une vie facile, que tout est un paradis sur terre. Mais une fois qu'on est marié, on se rend compte que c'est pas toujours ça. Mais en fait, de cette croix, de cette épreuve, en sortiront un grand bien. Nous allons le voir. De plus, sainte Monique eut à souffrir aussi de la mère de Patrice, donc de sa belle-mère, car elle était aussi païenne et elle écoutait facilement les calomnies de ses servantes païennes contre Monique. Souvent, les païens qui sont gênés de voir les chrétiens mener une meilleure vie se mettent à calomnier, à critiquer, à injurier les chrétiens. Et c'est ce qui arriva pour Monique, son mari et sa belle-mère ne cessaient de se moquer d'elle. Et Monique gardait confiance. Elle savait que Jésus peut tout. Nous ne pouvons rien. Alors elle se décida à convertir son mari non pas par ses propres forces,
mais par la prière et son exemple de patience et de douceur. Et on peut dire que les paroles édifient, mais l'exemple entraîne. Elle va obtenir ainsi, quelque temps avant sa mort, la conversion de son mari. De ce mariage qui était une croix à martyr continuelle, on peut le dire, à tout instant de la journée, elle était brimée et moquée par Patrice. Eh bien, de ce mal sortirent trois grands biens, trois grands saints, qui furent les trois enfants de Sainte Monique. Ces trois enfants seront canonisés, Augustin, l'aîné, Navigius et Perpétue. Voyez que l'influence d'une maman, même dans une situation difficile, peut avoir des fruits extraordinaires. Trois grands saints qui seront canonisés et qui feront un très grand bien dans toute la chrétienté. Saint Augustin, qui écrira plus tard sa vie dans un livre qui s'appelle « Les Confessions », où il confessera tout le mal qu'il a fait et tout le bien qu'on lui faisait pour le convertir, dira combien sa mère était patiente et douce, et combien toute la famille souffrait de ce que seul le papa n'avait pas la foi et ne pratiquait pas. Saint Augustin dira aussi que la douceur est l'exemple de sa maman, et les paroles du catéchisme qu'elle leur enseignait laissèrent des traces ineffaçables dans son âme et le poussèrent un jour à se convertir. Oui, consolez-vous, chers parents, qui avez des enfants qui ont mal tourné. Si vous leur avez donné une bonne éducation, s'ils ont eu le catéchisme, c'est une trace ineffaçable qui un jour peut porter du fruit. Il faut prier avec persévérance. Quand Augustin eut 15 ans, avec l'éveil des passions et le mauvais exemple de son papa, c'est le vieil homme qui prit le dessus dans son âme, au-dessus de l'homme nouveau. Et Augustin, qui était très intelligent, qui était un intellectuel, mais aussi qui avait un grand cœur, commença à aimer plus le monde que Dieu, puisqu'il n'aimait pas Dieu. Alors il s'attacha à une femme, et sans se marier avec elle, il vécut en concubinage. Il quitta sa ville pour aller vivre à Madour, et ils eurent un enfant illégitime. Ce fut une grande douleur pour la maman de savoir que son fils vivait en concubinage et donc dans le péché grave. En plus, à Madour, Augustin entra dans une école païenne, et il n'y entendait que des discussions de gens qui n'ont pas la foi, et les livres qu'il avait, les récits qu'il devait lire pour apprendre le latin, le grec, n'étaient que des récits de paganisme. De plus, dans cette école, il n'y avait aucune réponse valable au but de la vie. Ah, qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que la mort? Est-ce que le bien et le mal sont récompensés? Toute question qui a une réponse seulement par la religion catholique. C'est à cette époque donc que mourut le papa. Avant de mourir, il fit venir Monique et demanda pardon du fond du cœur d'avoir été si méchant jusqu'à ce jour. Il dit qu'il voyait bien que sa vie était mauvaise, mais c'était le respect humain, la honte, qui l'empêchait de demander pardon et de changer. Il fut donc baptisé, fit sa première communion sur son lit de malade, et quelques jours après, il mourut dans la paix, arrosé par les larmes de joie de Monique. Elle perdait son mari, mais elle gagnait son âme. Elle le retrouverait dans le ciel. Thank you. Maintenant que Malik avait du temps libre, elle se consacra beaucoup plus longuement aux pauvres, aux malades, aux veuves et aux femmes mariées qui étaient trompées par leur mari. Elle les consolait en disant que il fallait garder patience, prier, être douce et attendre l'heure de la grâce, car pour obtenir une grâce, il faut prier avec foi, avec confiance et aussi avec persévérance jusqu'à ce que l'on obtienne. Mais une autre grande croix attendait encore cette sainte Monique, c'est que son fils entra dans une secte, la secte des Manichéens, qui croyait en l'existence de deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal. Et tout ce qui était visible, sensible, matériel, venait du dieu du mal. Le manichéisme, cette secte, va se conserver durant près de 1000 ans. Et c'est la croisade de Simon de Montfort, grâce aux prières du rosaire de Saint Dominique, qui mettra fin à cette hérésie. Quand son fils vint à la maison pour annoncer à sa maman qu'il était entré dans cette secte, « Tu n'entreras pas dans cette maison !» dit-elle. « Je ne veux pas que mon fils entre dans la même maison qu'une âme qui est consacrée à Jésus-Christ. Tu remettras tes pieds ici le jour où tu auras repris la religion du seul et vrai Dieu Jésus-Christ. » Et lui ferma la porte au nez. Ce fut un coup dur pour Augustin, mais la dignité et la fermeté de sa mère l'empêchaient de se révolter, car il savait qu'elle avait raison. Qui aime bien, châtie bien. La Sainte Vierge permit que Monique eût une vision, un songe, où elle se voyait, Monique, sur une grande planche. Et sur cette planche, elle cherchait son fils, et elle ne le voyait pas. Elle se mit à pleurer. Mais un ange lui apparut et lui dit, « Monique, pourquoi pleurez-vous? Mais vous voyez bien, je suis toute seule. « Mon fils n'est pas avec moi, il n'est pas dans la religion catholique. »« Mais si, ton fils est avec toi, ne l'entends-tu pas qu'il te parle ?»« Écoute et regarde, il est derrière toi. » Et en effet, Monique vit son fils qui était derrière elle et qui semblait prier. Et alors en se réveillant, Monique comprit que Dieu lui annonçait à l'avance que son fils Augustin allait se convertir. Monique s'empressa de dire ce songe à son fils. Il en fut vraiment ébranlé. Il avait été mis à la porte. Elle lui racontait ce songe. La grâce commença à travailler sa conscience. Mais le démon ne le lâchait pas sa proie. Comme un big bull, une fois qu'il nous a attrapés, il ne démord plus. Alors Monique priait. Elle demandait surtout au bon Dieu de ne pas permettre qu'Augustin parte pour Rome, car Rome était une ville de débauche et Saint-Augustin se serait perdu à jamais. Et voilà qu'Augustin part pour Rome. « Oh mon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas écouté mes prières ? Pardon mon Dieu, je sais que vous les écoutez, mais... pourquoi avez-vous permis cela? Si Dieu ne nous exauce pas dans la prière, c'est qu'il nous donne quelque chose de meilleur. Et pour Augustin, ce fut ceci. En partant pour Rome, il dut passer par Milan. Il y croisa Saint Ambroise, qu'il alla écouter dans un sermon, dans sa cathédrale, et ce sermon l'ébranla profondément. La conversion s'amorçait. Il y alla tous les jours, suivit le catéchisme, se prépara à être baptisé, devint catéchumène. Il était converti. Voyez pourquoi Dieu n'avait pas exaucé Monique comme elle l'aurait désiré. Mais le pitbull, le démon, ne lâchait pas prise. Il voulut à tout prix essayer une dernière tentative. Le démon, malgré les prières de Monique, tentait encore Augustin. « Augustin, tu n'arriveras pas à être chrétien. Toute ta vie, tu devras rester pur, prier, aller à la messe, aimer ton prochain, faire ton devoir d'État. Rends-toi compte tous les jours, et si tu meurs à 100 ans, tu ne tiendras pas le coup. » Et Augustin décida de refuser le baptême, en se disant « Ce sera trop dur. » Et à ce moment-là, son ange gardien lui dit à l'oreille « Mais Augustin, ce que les autres chrétiens ont pu faire, pourquoi pas toi ?» Alors il comprit que c'est une tentation du démon. Tout trouble vient du démon. Chaque jour suffit sa peine. Il comprit qu'être chrétien, ce serait possible jour après jour avec la grâce de Dieu. Alors il fut baptisé par Saint Ambroise. Ce fut le plus beau jour de la vie de Sainte Monique. Elle avait 55 ans et Augustin en avait 33. Le démon était vaincu. Augustin ne faillirait jamais plus. Monique était heureuse. Et elle dit à Augustin, « Je vais bientôt mourir. »« Mais maman, tu es en bonne santé, tu ne vas pas mourir. » Augustin, Dieu ne nous laisse sur la terre que pour faire sa sainte volonté. Et j'ai rempli ma mission. Mes trois enfants sont chrétiens. J'ai obtenu par mes prières et mes larmes ta conversion et celle de mon mari. Tes deux frères et sœurs sont déjà partis pour le ciel. Et toi, je vois bien que tu as la vocation. Tu seras prêtre, peut-être même plus. Je n'ai plus rien à faire sur terre. Je pourrai plus t'aider là-haut dans le ciel. Dans le ciel, on peut travailler des deux mains. Ici, on n'en a qu'une. Avec l'autre main, il faut se défendre soi-même. Augustin pleura beaucoup. Il aurait voulu réparer les souffrances qu'il avait causées à sa mère durant ses 33 années. Alors sa mère lui dit, « Augustin, si tu veux me consoler, quand je serai parti là-haut, tous les jours, promets-moi de te rappeler à moi à l'autel du Saint-Sacrifice, au memento des morts, après la consécration. Demande à Dieu de purifier mon âme, que je ne reste pas au purgatoire trop longtemps. » En effet, Saint Augustin deviendra prêtre, évêque, puis docteur de l'Église, et tous les jours de sa vie, il se rappellera ce que sa mère lui a dit. Il, il l'invoquera même comme une sainte, mais toujours il priera pour elle à la messe. Voici ce qu'Augustin raconte dans son livre des Confessions. 9 jours après cela, ma mère mourait. Je lui fermais les yeux, et dans le fond de mon cœur affluait une douleur immense, prête à déborder un ruisseau de larmes, et mes yeux, sur le commandement de mon âme, ravalaient le courant des larmes, et cette lutte me déchirait. Mais sa mort n'était ni malheureuse, ni totale. Nous avions pour garant sa vertu, sa foi sincère, et ses bons exemples les plus héroïques. Alors, je pris le psautier et je me mis à chanter le psaume auquel nous pensions si souvent. Je chanterai, Seigneur, votre gloire, vos miséricordes et vos jugements. Et après les funérailles, Augustin se retira à l'écart et en présence de Dieu seul, il donna enfin cours à ses larmes. Pleurant, dit-il, cette mère morte pour un temps à mes yeux, cette mère qui m'avait pleuré tant d'années pour me faire vivre aux yeux de Dieu. Ma mère m'avait donné 2 fois la vie, le jour de ma naissance et le jour de ma conversion. Sainte Monique, qui avez tant souffert sur cette terre, des propres membres de votre famille, de vos prochains les plus proches, faites-nous la grâce de supporter avec patience et douceur les défauts de notre prochain, que par notre exemple, notre édification et notre prière persévérante, nous obtenions non seulement leur conversion, mais aussi notre sanctification par la patience quotidienne que nous offrirons à Dieu à l'autel du Saint-Sacrifice. Ainsi soit-il. Sainte Rose de Lima. Sainte Rose est née en 1586, le 20 avril, au Pérou, à Lima dans la capitale. Au baptême, que ses parents donnèrent rapidement, on l'appela Isabelle. Mais un jour, une belle rose apparut sur le visage de l'enfant, et la maman qui était là lui dit « Désormais, Isabelle, je t'appellerai Rose ». Plus tard, Sainte Rose se demandait s'il fallait qu'on l'appelle Isabelle ou Rose, et alors elle priait devant une statue de la Sainte Vierge, et la Sainte Vierge lui apparut, tenant l'enfant Jésus dans ses bras, en lui disant « Mon divin Fils est content que tu portes ce nom, mais il désire que tu ajoutes le mien. Désormais, tu t'appelleras Rose de Sainte Marie ». Toute la vie de Sainte Rose de Lima est une suite de croix perpétuelles,
Déjà à l'âge de 3 ans, elle eut un accident. On ferma un coffre, un très gros coffre, sur ses mains et ses doigts restèrent coincés à l'intérieur du coffre. Rose cacha autant qu'elle pouvait cette souffrance et resta plusieurs jours sans rien dire. 3 jours après, sa maman découvrit le mal qu'elle avait. Elle appela le chirurgien, mais celui-ci était plutôt un apprenti chirurgien. Il lui appliqua une espèce de lotion d'acide qui lui fit plus de mal que de bien. Mais l'enfant, qui n'avait que 3 ans, ne poussa pas un seul cri. De même, quelques semaines, quelques mois plus tard, Rose eut un mal à l'oreille. On ne savait pas comment le guérir, si bien que le chirurgien lui coupa le morceau d'oreille malade. Là encore, l'enfant supporta avec une grande patience, en n'ayant qu'un seul cri à la bouche, « Jésus, Jésus !» Troisième maladie, c'est une maladie qui s'appelait la gourme, une espèce d'infection de la peau du dessus de la tête. Sa maman, qui n'était pas un bon médecin, crut qu'il fallait mettre de l'acide assez fort pour pouvoir dissoudre la croûte qui était sur la peau de la tête. On rasa les cheveux de l'enfant et la maman gicla cet acide sur la tête de Rose. Elle ne dit rien. Cela lui brûlait et le lendemain matin, on pouvait presque voir le crâne au-dessus de la tête de l'enfant. Cette fois, elle criait. La douleur était forte. Mais quand on lui demandait comment ça allait, elle ne faisait que dire « Ça va, je souffre un peu. » Elle mettra 1 mois et demi pour guérir de ce geste maladroit de sa maman. Plus tard, elle eut encore une autre maladie dans le nez, un polype, et on dut l'arracher aussi, sans que Rose ne pousse un seul cri. Dieu allait récompenser une telle patience. Elle offrait tout à Jésus. Jésus allait tout lui accorder, tout ce qu'elle demandait dans la prière. Une chose qu'elle demandait beaucoup dans la prière, je ne sais pas si nous on le demande souvent, c'était la grâce d'obéir. Elle n'avait que 5 ans. Elle avait consacré sa virginité à Jésus. Et tous les jours elle demandait d'obéir parfaitement à sa volonté et à ses parents. Et c'était pas toujours facile. Sa maman était très coquette et elle poussait sa fille à la coquetterie pour pouvoir un jour la marier. Mais Sainte Rose savait utiliser ce défaut de sa maman pour sa propre sanctification. Par exemple, sa maman voulait qu'elle porte une couronne de fleurs sur la tête pour attirer les regards des garçons. Alors elle mettait cette couronne sur la tête, mais y mettait une épingle qu'elle plantait dans sa tête pour faire de cet instrument de séduction un instrument aussi de pénitence. Elle était très obéissante, car elle savait qu'en obéissant, on obtient beaucoup de grâce, si bien que Rose demandait toujours la permission pour tout, même pour boire. Quand on ne lui donnait pas à boire, elle ne demandait la permission que tous les 3 jours. Sa maman l'avait remarqué, et parfois pour l'éprouver, elle lui disait non. Si bien qu'elle pouvait rester parfois 6 jours sans boire. Mais sa mère la poussait encore toujours à la coquetterie. Il y a des parents qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de bien marier leurs enfants, qu'ils aient une bonne situation, de l'argent qui leur tombe tous les mois, mais leur sanctification, leur salut ou leur vocation, ça, c'est un autre problème. Alors sa mère voulait que Rose trempât ses mains plusieurs heures dans du parfum pour que ses mains restent parfumées toute la journée pour édifier ceux qui la verraient. L'enfant obéit, mais Dieu montra qu'il n'aimait pas cela. Voilà que la nuit, Rose se mit à crier, à hurler. Sa maman arriva, elle avait bandé les mains pour que l'enfant n'enlève pas ce parfum, et l'enfant avait tellement mal aux mains qu'elle finit par enlever les bandes, toute la peau était brûlée. La maman comprit, mais elle ne comprit pas que Rose ne voulait pas se marier. Ses parents, qui ne pensaient qu'à des choses terrestres, qu'à bien marier leur fille, furent punis par le bon Dieu. Cette punition les convertira. La punition fut dure, ils perdirent tout leur argent, toute leur fortune. Ils devaient mendier. Rose, au lieu de dire « c'est bien fait, hein ?» ce fut leur esclave, leur servante. Et ainsi, elle put faire vivre la famille de ses mains. On dit qu'elle arrivait à travailler comme 4 personnes, tant elle était énergique, et Jésus l'aidait. Sa mère renonça à la marier, et Rose put devenir, comme Sainte Catherine de Sienne, tertiaire de Saint Dominique. Elle ne put pas être religieuse, car il fallait aider ses parents. Elle ne pouvait pas les abandonner, ils n'avaient plus rien à manger. Il fallait que quelqu'un travaille. Alors par piété filiale, même pour des parents qui l'avaient fait souffrir, elle se rappelait que Jésus avait dit « Faites du bien à ceux qui vous maudissent ». Elle resta à la maison et vivait comme une religieuse dans sa maison. Maintenant, vous allez voir quels sont les sacrifices vraiment extraordinaires qu'on ne peut pas imiter, qu'a fait Sainte Rose de Lima. Pourquoi tant de sacrifices? D'une part, c'est pour montrer la puissance, la grâce de Dieu, qui peut pousser des gens à faire de telles choses. D'autre part, c'est pour montrer que les âmes ne s'achètent que par la croix, que par des sacrifices. Et enfin, troisièmement, c'est aussi pour nous stimuler, nous, qui avons si peur de nous priver, d'être incommodé, d'avoir une petite souffrance, que les énormes souffrances et sacrifices de Sainte Rose sont pour nous un stimulant. Quand on les voit, on se dit « Elle a tant fait, je peux bien faire un petit peu. » Elle jeûnait plusieurs fois par jour, par semaine, pardon. Elle ne mangeait jamais de fruits, jamais de viande. Plus tard, elle ne mangea qu'une fois par jour de la soupe faite avec du pain et de l'eau, sans sel, ni aucun autre assaisonnement. Elle y ajoutait même du fiel pour que ce soit plus mauvais. Parfois, quand ses parents ne voyaient rien, elle arrivait à passer plusieurs jours sans manger. Toutes les nuits, elle se fouettait avec des chaînes de fer. Elle s'offrait à Dieu comme une victime pour le rachat des âmes, pour l'Église et pour l'État, pour les âmes du purgatoire et pour tous les grands intérêts pour lesquels Jésus s'immole sur l'autel. Elle meurtrissait son corps, se rappelant la parole de Saint Paul, « Je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Elle pensait beaucoup à la passion de Jésus. Elle trouvait toutes sortes de pénitences qui lui faisaient ressembler à Jésus dans sa passion. Souvent, elle voulait imiter et savoir ce que c'était que de porter une grande croix. Alors elle portait une grande caisse de briques pour mieux comprendre la fatigue de Jésus. Alors avec cette caisse de briques sur l'épaule, elle se mettait à prier jusqu'à ce qu'elle tombe de fatigue. Ensuite, elle inventa une autre pénitence, une vraie croix qu'elle portait la nuit pour être vue de personne, qu'elle portait dans son jardin, sur l'épaule, en marchant pour pouvoir comprendre ce que c'était que le chemin de la croix. Elle marchait, tombée sous la croix, et elle comprit ainsi que Jésus nous avait vraiment beaucoup aimés, car il avait beaucoup souffert. Elle fit même une folie. Elle se mit autour du ventre une triple chaîne, avec un cadenas dont elle perdit la clé exprès pour ne pas avoir la tentation de l'enlever. Mais la chaîne s'incrusta dans la peau. Les douleurs furent si intolérables qu'une nuit elle se mit à hurler et une de ses amies qui entendait crier est venue l'aider, mais ils eurent bien du mal à enlever cette chaîne avec une pince, un marteau et un burin, et il fallut arracher la peau avec la chaîne. Pour mieux comprendre et pour délivrer les âmes de l'enfer, elle se mettait exprès les pieds sur le feu du fourneau. Pour mieux comprendre les souffrances du couronnement d'épines, pour mieux réparer les péchés d'orgueil, comme elle avait un voile, elle pouvait cacher sous son voile un espèce de casque avec 33 pointes en dedans. Et elle portait ça sur sa tête. Un jour même qu'elle tomba, ses pointes durent s'enfoncer profond dans la tête, car le sang couvrit son visage. C'est ce jour-là que son papa découvrit cet instrument de pénitence. Pour dormir, c'était un vrai supplice. Elle dormait sur des bouts de verre et des bouts de vaisselle cassés, et elle se mettait dans la bouche du fiel pour se rappeler que Jésus sur la croix avait été abreuvé de fiel. En allant se mettre au lit, elle avait parfois tellement peur des souffrances de cette pénitence-là qu'elle devait se reprendre à deux ou trois fois pour avoir le courage de se coucher ainsi. Jusqu'au jour où Jésus lui apparut et lui dit « Souviens-toi, ma fille, que le lit de ma croix était bien plus dur, plus étroit et plus effrayant que le tien. Il est vrai que je n'avais pas comme toi des pierres cassées sous le dos, mais des clous cruels perçaient tous mes membres. Le fiel ne me fut pas épargné. Les bourreaux me le présentèrent, et alors que j'étais dans une fièvre brûlante, médite ça sur ton lit de douleur, et la charité te dira que ton lit est un lit de fleurs à côté de ma croix. » Et on peut bien réfléchir que nous sommes bien douillés, nous. On a si peur de faire des sacrifices, on se plaint pour si peu. Alors que Sainte Rose, fortifiée par ses paroles, toute sa vie, jusqu'à sa mort, fit toutes les nuits cette pénitence. Son emploi du temps. Sur 24 heures, elle en employait 12 à prier, 10 à travailler de ses mains, et pour dormir, ce qui reste, c'est-à-dire 2 heures. Une des plus grandes pénitences, nous dira-t-elle, ce fut l'insomnie le soir, cette difficulté à s'endormir, elle souffrait tant. Et la journée, cette somnolence contre laquelle elle devait lutter, spécialement dans ses prières. Toutes ces pénitences, ce n'est pas la sainteté. Mais la sainteté de Rose apparaissait surtout dans son obéissance, dans son humilité et dans sa générosité d'imiter Jésus pour sauver des âmes. Toutes ces pénitences, elle demandait la permission à son confesseur de les faire. Et chaque fois qu'un confesseur voulait refuser l'une ou l'autre pénitence, il ne pouvait le refuser car il se trouvait tout à coup muet. C'est donc Dieu qui demandait à cet âme privilégiée de compléter ainsi sa passion, et Dieu lui donnait les grâces nécessaires pour l'accomplir. Mais ne voulez pas que ces pénitences tournent à son orgueil, qu'on la félicite. Alors elle demanda à Dieu que sa figure ait l'air d'une figure en parfaite santé, de quelqu'un qui mange bien. Et en effet, elle fut joufflue, avec de belles couleurs sur son visage, si bien que les gens de son village se moquaient d'elle en disant « Regardez cette religieuse qui prétend faire pénitence et qui se la coule douce, regardez comme elle est en bon point. » Jésus aussi a été mal jugé. On l'a même traité de Belzébuth. N'ayons pas peur d'être mal jugé. Ayons peur du jugement de Dieu. Les dernières années de sa vie, Sainte Rose les passa dans son jardin. Elle y construisit une petite cabane, une petite ermitage, où elle vivait comme une carmélite, comme une ermite. Ses parents furent assez cruels pour l'empêcher d'aller à la messe. Mais elle révélera vers la fin de sa vie que Dieu l'emmenait miraculeusement dans une ou l'autre des églises de Lima pour y assister à la messe. Extraordinaire. Elle vit souvent aussi Jésus, ainsi que la Sainte Vierge. Mais Dieu savait montrer aussi qu'il aimait cette sainte âme. Par exemple, les moustiques qui sont si nombreux dans cette région et si agaçants remplissaient la cellule, l'ermitage de Sainte Rose, mais sans jamais la piquer, sans même jamais la déranger pendant qu'elle priait. Si Jésus et la Sainte Vierge lui apparaissaient, ainsi que Sainte Catherine de Sienne ou d'autres saints anges, le démon aussi lui apparaissait. Et comme le Saint Curé d'Ars, elle aura à souffrir physiquement de cette persécution. Le démon parfois lui criait dans les oreilles. Il la frappait avec violence, ou la poussait contre le mur, semblait l'écraser, l'étouffer contre le mur, ou la traîner par terre d'un endroit à un autre. Mais Rose se moquait de toutes ses colères. Elle offrait tout cela à Jésus, et se confiant en lui en disant « Celui qui ne permet jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces, prendra bien soin de moi. » Elle était surtout animée de la vertu qui s'appelle le zèle apostolique. La charité veut qu'on aime Dieu par-dessus tout et veut qu'on amène les âmes à aimer Dieu. Elle croyait toutes ses forces que nous sommes tous membres les uns les autres, membres de Jésus-Christ, destinés au ciel. Elle souffrait beaucoup de voir les péchés, l'idolâtrie, le paganisme, l'impiété dans les églises. Elle disait, si je pouvais, je me laisserais hacher en 1000 morceaux pour pouvoir sauver les âmes, pour pouvoir sauver les Chinois, les Turcs, les Chiliens, et je me mettrais volontiers à l'entrée de la porte de l'enfer pour empêcher les pécheurs d'y entrer. Mais hélas, les pécheurs tombent en enfer comme les feuilles pendant l'automne. Rose adopta même un petit enfant, chez lequel elle voyait une vocation, et lui paya tous les frais de l'école, du séminaire, et ensuite il devint un prêtre missionnaire. Elle fut toute heureuse d'avoir ainsi pu collaborer au salut de quelques âmes. Elle fit beaucoup de conversions. Elle convertit même sa mère, enfin, car elle prit le voile, se fit religieuse dominicaine dans le couvent de Lima, qui contient 200 religieuses à cette époque. Enfin, le temps de partir dans la vraie vie arriva. Sainte Rose mourut Le 24 août 1617, elle n'avait que 31 ans. Et à son tombeau, jour de ses funérailles, une quantité de pécheurs se convertirent, ce qui montrait que Dieu avait eu pour agréable les pénitences qu'elle avait faites pour eux. C'est le pape Clément IX qui va la béatifier et qui les fera la patronne principale du Pérou. Sainte Rose de Lima, qui avait tant aimé Jésus et qui n'avait jamais calculé ce que vous avez fait pour gagner les âmes des pauvres pécheurs, pour qu'elles aillent à Jésus, faites-nous la grâce d'en faire un peu plus pour sauver les âmes des pauvres pécheurs. Rappelez-nous la passion de Jésus. Rappelez-nous vos sacrifices. Aidez-nous à ne pas nous plaindre et à mater notre corps pour qu'il serve notre âme et Jésus a sauvé beaucoup d'âmes. Ainsi soit-il.